savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret, Sophie Torlotta.
Bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde avec une émission consacrée cette semaine aux plateformes de streaming Amazon, Netflix, bientôt Apple TV, HBO Max, ça c'est la plateforme de Warner et Disney bien sûr. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Cinq géants pour une ribambelle de questions. Comment verrons-nous les films demain ? Est-ce la mort de la télévision, la télé de papa telle que nous l'avons connue ? Comment Netflix va-t-il résister ou non ? À cette concurrence accrue, la guerre des contenus va-t-elle déclencher une bulle spéculative? Et puis en salle, est-ce qu'on va passer d'une industrie des prototypes au royaume des licences? Bon, ça, on a vu depuis quelques années hein, qu'on s'en approchait beaucoup. Si on est analyste financier aujourd'hui, c'est clair que le blockbuster de l'année ne sera pas King Kong contre Godzilla, mais Netflix contre Disney. La guerre du streaming aura-t-elle lieu? Pour en parler, nous avons réuni deux spécialistes de la question. Pascal Le Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des médias, vous êtes aussi le fondateur de What's Hot Media, donc c'est un site de veille, c'est
exactement.
Ça Et Alain Ledibert-Der, vous êtes le spécialiste, un des spécialistes de l'économie de l'audiovisuel. Vous avez alors un très très long curriculum vitae, on ne va pas tout citer, mais vous avez entre autres été le directeur des nouveaux programmes de Canal+, de 1994 à 2001. Vous avez été directeur des programmes d'Arte et vous publiez aux éditions La Découverte un petit livre passionnant, ça s'appelle « La nouvelle économie de l'audiovisuel ». Alors je vous propose, pour parler de cette guerre du streaming, aura-t-elle lieu ou pas en 2020, je vous propose de commencer l'émission avec la soirée des Golden Globes, donc c'était dimanche dernier, on écoute Ricky Gervais, discours très orienté. Il faut dire que Netflix avait pas moins de 3 films dans la catégorie la plus convoitée, celle du meilleur film dramatique, The Irishman, Marriage Story et Les Deux Papes.
No one cares about movies anymore. No one goes to the cinema.
Plus personne ne se soucie des films aujourd'hui. Plus personne ne va au cinéma. Plus personne ne regarde les grandes chaînes de télévision. Tout le monde regarde Netflix. Cette cérémonie, ça devrait être juste moi qui débarque pour dire « Bravo Netflix, t'as tout gagné, bonne soirée ». Mais non, on doit faire durer ça sur 3 heures. Vous pouvez binger la première saison d'Afterlife sur Netflix au lieu de regarder cette cérémonie. C'est une série sur un mec qui veut se suicider après le décès de sa femme cancéreuse. Et ça reste encore plus drôle que tout ça ici.
All the best actors have jumped to Netflix and HBO. You
know. Tous les meilleurs acteurs ont sauté le pas vers Netflix, HBO, alors que ceux qui font Hollywood aujourd'hui ne tournent que des gros films d'aventure qui n'ont aucun sens. Ils portent des masques, des capes et des costumes hyper moulants. Leur taf, c'est même plus de jouer la comédie, mais d'aller à la salle de sport 2 fois par jour et de prendre des stéroïdes.
Finalement, la cérémonie n'a pas été la consécration attendue de Netflix, hein, puisque c'est le film de Sam Mendes, 1917, qui a finalement raflé le Golden Globe du meilleur film dramatique. Mais enfin, ça donne bien quand même le ton de la conversation, Pascal Le Chevalier.
Bah oui, Netflix est entré dans la grande famille du cinéma hollywoodien. D'ailleurs, aujourd'hui, Netflix a 2 grands bâtiments, dont un en construction sur Sunset Boulevard. Donc, Netflix est en train de conquérir Hollywood. Et donc, évidemment, la contrepartie de ça, c'est qu'il faut essayer d'avoir des prix, parce que les prix, ça fait toujours plaisir.
C'est une question de vitrine pour Netflix, c'est pas du tout une question économique de gagner des prix.
Il n'y a aucun enjeu économique pour Netflix. Pour eux, l'enjeu, c'est effectivement de se hisser à la hauteur de leurs grands compétiteurs, de leurs grands ennemis d'aujourd'hui, qui sont sur le territoire américain, les studios. Et évidemment, d'avoir des prix, ça fait de la presse, ça fait de la promo. Mais Netflix, aujourd'hui, n'a pas forcément besoin de ça pour rayonner, sachant qu'en plus, un des reproches qui est toujours fait à Netflix, c'est de ne pas être découvreur de talent, mais de travailler qu'avec des gens qui sont consacrés et qui, de toute façon, n'ont pas forcément non plus besoin de prix. Si on fait référence à Martin Scorsese, il n'attendait pas forcément d'avoir un prix avec Netflix pour son film.
Alors, est-ce que vous pensez, et je vous pose la question à tous les deux, Alain, Pascal, que 2020, sans jeu de mots, va être une année pivot pour le cinéma, avec l'arrivée de toutes ces nouvelles plateformes? Parce que on pourrait dire que finalement, les abonnements peuvent aller à l'infini. Mais enfin, pour chaque foyer, on ne peut pas imaginer un foyer qui serait abonné à 7, 8, 9 plateformes. Ouais, Alain Ledibert-Der.
Il y a 2 aspects dans votre question. Année pivot pour le cinéma, elle a déjà eu lieu. C'est l'année 2009. En 2009, il s'est passé un grand virage à Hollywood quand les studios ont constaté que 50% de leurs revenus venaient de l'étranger et plus des États-Unis d'une part,
et qu'ils ont observé,
et en espérant beaucoup de choses sur la Chine, mais aussi que le DVD s'écroulait. Et donc en 2009, tous les studios, sauf un, Sony, ont décidé de changer de stratégie de production, de diviser, pas par deux, mais presque par deux, le nombre de films, et de se concentrer sur les licences, les IP, les propriétés intellectuelles. Et c'est vraiment en 2009, avec un patron exceptionnel, qui est Bob Iger, le patron de Disney, qui était rentré quelques années auparavant à Disney, qui avait dit « le cinéma a changé ». Le cinéma a changé parce que pendant 70 ans, on a fait des films avec un réalisateur connu ou en devenir ou à la mode ou qui avait la carte, deux comédiens connus, deux autres pas connus mais sur lesquels on investit et voilà comment on faisait une affiche. Bob Iger dit ça, fini. D'ailleurs, Disney avait racheté Miramax, la boîte de Weinstein, et il l'a bradé, il l'a vendu, il s'en est débarrassé en disant désormais. Et ça, c'est vraiment la loi et les prophètes dans les deux décennies qui ont suivi. Le film n'a qu'une vedette, son titre. La vedette d'un film, c'est son titre. Donc, ça fait Toy Story 1, 2, 3, 4, 5, 18, etc., etc.
Star Wars, toutes les licences voilà, des films de super-héros.
Les suites qui représentaient généralement dans les années 90, 4-5% des entrées aux États-Unis et qui maintenant sont à 35%. Et donc c'est ça l'année pivot, donc ça sera pas 2020. L'année pivot, malheureusement, c'est moins spectaculaire, mais elle a eu lieu il y a 11 ans. Et l'autre question, c'était sur la comment les plateformes peuvent s'empiler. Alors, faut savoir qu'aux États-Unis, un abonnement standard, normal, au câble, c'était entre 100 et 150 dollars, 100 et 150 dollars, dont un certain nombre de chaînes, comme HBO ou Showtime, qui pouvaient, suivant les contrats, coûter 20, 30, 40 dollars.
Par an, donc.
Par mois.
$150 par mois.
$150 par mois. Donc, vous arrêtez de prendre Showtime, vous arrêtez de prendre HBO, vous avez économisé suffisamment d'argent pour acheter 3, 4, 5 plateformes. Donc, la contrainte, elle va pas être vraiment sur la dépense.
Sur le prix.
Parce que les plateformes coûtent beaucoup moins cher que les chaînes à péage précédentes. Elle va être plutôt sur le contenu. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas la peine d'avoir quatre fois la même chose, quoi. Mais pas sur l'argent.
Et alors, justement, est-ce qu'on peut jouer au jeu des sept familles? C'est-à-dire que ce qui a à attendre, l'arrivée de ces plateformes, enfin, je dis ce qui a à attendre, mais en fait, certaines, comme Disney, existent déjà, je crois, depuis novembre aux États-Unis, sur trois territoires, États-Unis, Canada et Australie.
Et les Pays-Bas.
Pays-Bas. Et donc va arriver en mars dans plusieurs pays d'Europe, dont la France. Donc ça va ressembler à quoi? Ça va être un bulldozer? Ça va être une offre pléthorique?
On sait à quoi ça ressemblera, puisqu'il y a déjà, ça a déjà démarré. Mais Disney, c'est une marque extraordinaire. En réalité, c'est la seule marque dans le cinéma. Seuls les spécialistes de l'audiovisuel connaissent Universal ou savoir que Spider-Man, c'est un film Sony. Ça, c'est le grand public s'en fiche complètement, il le sait pas. Disney est une marque depuis un demi-siècle, qui est une des marques les plus connues avec Coca-Cola, avec Apple, etc. etc. Donc ça, c'est un atout extraordinaire. Et Disney a un autre avantage, c'est que ils sont présents dans le monde entier, y compris en Chine, depuis longtemps. Donc c'est effectivement une marque mondiale. Et c'est pas si fréquent que ça dans le cinéma. On dit le cinéma américain domine le monde, mais en fait pas les marques. Mais Disney, c'est pas vrai. Disney est une marque connue, et donc spontanément, des gens vont aller vers Disney, avec en plus un prix qui est très bas, qui est un prix probablement scandaleusement bas, en fait. C'est un prix de dumping.
Est-ce qu'on connaît le prix, justement? C'est quoi? C'est moins de 10 dollars
alors,
par mois?
TTC, en fait, parce qu'il y a les taxes. Hein, en France, ça sera autour de 7, entre 7 et 8 euros.
A priori, 6,99. Et qui est le prix standard américain, 6,99 dollars, qu'on répercute ensuite.
Mais par contre, avec un catalogue qui est assez moindre, en tout cas au début.
Alors, faut toujours, oui, effectivement, faire attention, parce que Disney est une entreprise mondiale, comme vient de le dire Alain, et donc ils ont un catalogue qui s'adapte en fonction des pays dans lesquels on est. Alors, la particularité de la France, c'est cette fameuse chronologie des médias, et la particularité de l'Europe, c'est les quotas sur les œuvres européennes et françaises
qu'il de toute façon va falloir respecter puisqu'on va transposer la directive à échéance de fin d'année 2020. Et par conséquent, ça va forcément modifier le périmètre de l'offre, mais ça restera quand même la marque Disney avec à l'intérieur Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic, et rien qu'avec ces cinq marques-là,
ça... C'est les rois du monde.
Oui, en tous les cas. Alors, ce qui est important par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, justement, c'est qu'aujourd'hui, le public a aussi envie d'acheter des offres peut-être un peu mieux packagées que d'avoir 250 chaînes, comme c'était le cas aux États-Unis. Et d'ailleurs, le phénomène qui se produit en ce moment aux États-Unis, qu'on appelle le cord-cutting, c'est-à-dire les gens qui se désabonnent de ces fameuses offres à $150, en fait, ils reprennent un abonnement sec à Internet, broadband, et d'ailleurs les abonnements broadband secs aux États-Unis sont en forte croissance et viennent ajouter derrière ces nouvelles plateformes, Hulu, Netflix, Amazon Prime, etc.
En dépensant moins. C'est important, hein, parce que beaucoup de gens disent, oulala, toutes ces plateformes, est-ce que les gens vont payer ? Il faut bien se rendre compte qu'aux États-Unis, le cord cutting, c'est une économie. C'est moins d'argent pour l'audiovisuel finalement, hein. Si on prend le problème vu d'en haut, c'est un phénomène de déflation, c'est pas un phénomène d'inflation. Les Américains dépensent moins pour l'audiovisuel qu'avant, ils achètent de moins en moins de DVD, et en abandonnant cette offre très très chère, ils économisent de l'argent. C'est important de voir, parce que c'est ce qui va peut-être gouverner les évolutions futures. Il y a moins d'argent qui rentre dans l'audiovisuel américain à cause des plateformes qu'avant, pas plus.
Mais par contre, les plateformes, on est bien d'accord, vont devoir se lancer dans des programmes de plus en plus, des investissements de plus en plus élevés. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une sorte de guerre aussi, peut-être de mercato des grands réalisateurs. Je pense à Scorsese, hein, mais il n'y a pas que lui.
Alors ça a déjà commencé. Moi, je cite une anecdote. Alors seuls les spécialistes connaissent ces personnes. Ce sont les frères Duplass qui ont signé un output deal avec Netflix. Et il se trouve que... Un output deal, c'est un contrat qui vous donne accès, alors en l'occurrence, au financement de Netflix sur une certaine quantité de films, sur une période donnée.
Et donc, c'est un peu ce que Woody Allen avait fait avec Amazon, c'est
tout
ça, c'est un contrat de plusieurs films.
Exactement. Et j'ai eu la stupéfaction de découvrir sur Apple TV+, la série phare qui était mise en ligne au moment du lancement d'Apple TV+, donc qui est aussi la plateforme de SVOD d'Apple, la série The Morning Show, dans lequel un des héros est Marc Duplass, donc un des frères qui a signé avec Netflix. Donc en fait, aujourd'hui, il y a une bataille où tout le monde essaye de se positionner, et évidemment, là, il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi du business, et ça, les Américains la connaissent parfaitement bien. Ils vont là où il y a de la dynamique financière, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les plateformes sont prêtes à dépenser des milliards, des dizaines de milliards de dollars pour alimenter leur programmation, parce que ça tourne à une vitesse phénoménale.
Mais alors du coup, Netflix, parce que Netflix c'est un peu un empire, hein, alors on connaît pas, les chiffres sont pas toujours très très précis, mais enfin en gros on pense que c'est 160 millions de foyers dans le monde. Est-ce que je me trompe, Alain Le Diberdard ?
Oui, c'est le chiffre qu'on peut estimer aujourd'hui.
Non mais Netflix. Donc le soleil ne se couche jamais sur.
Non mais Netflix est très transparent là-dessus. Ils ont tous les trimestres, ils rendent des comptes. C'est une entreprise qui cotée en bourse, qui est obligée à une grande transparence, contrairement à ce qu'on entend parfois.
C'est pas Google.
C'est pas Google. Et d'autre part, c'est vrai qu'ils ne communiquent pas les chiffres d'audience pour des tas de raisons, mais à part ça, si vous allez sur la technique, Netflix est parfaitement transparent. C'est l'entreprise la plus transparente du monde, qui fait même un site depuis longtemps ouvert à tout le monde, qui explique comment faire de la SVOD, quelles sont les techniques, c'est des logiciels libres, on a coutume de dire que les entreprises américaines sont parfois hautaines et secrètes, c'est pas vraiment le cas de Netflix, à part sur les chiffres d'audience. Mais la question pour ces plateformes qui effectivement se multiplient, c'est comment se différencier. Alors si on prend l'exemple de Disney a une très grande force, c'est la marque qui est connue et qui est familiale, ce qui est aussi une limite. C'est que Disney pourrait pas offrir Game of Thrones. Sur une chaîne comme familiale, avec une marque familiale, on commence à avoir des meurtres, de l'inceste, du sang qui gicle, etc.
Des anti-héros serial killers, comme.
Voilà. Donc, il y a une ligne éditoriale forcée de Disney qui est, comme le disait Pascal, qui est une entreprise qui n'est pas que Disney, les dessins animés, etc. C'est aussi ABC, c'est aussi ESPN, c'est National Geographic. Ils ont un catalogue très riche, mais la limite, c'est que ils peuvent pas aller vraiment vers le spectaculaire. Et pour l'instant, il faut reconnaître que l'essor, non seulement des plateformes et des séries, c'est pas fait sur des séries familiales et plan-plan. Tout le buzz et l'appétit et la main au porte-monnaie des consommateurs est venu sur des séries qui seraient pas passées dans la télévision de papa parce qu'elles sont trop edgy, comme ils disent, elles sont trop risquées. Alors, est-ce qu'une SVOD familiale, politiquement correcte, n'allant pas chercher le scandale, peut se multiplier? Ça, je doute un petit peu. Il y a une place pour un produit très familial. Probablement pas pour deux ou trois. En revanche, quand on va chercher des marges, il y a la science-fiction, il y a le thriller, il y a les films un peu gore, etc. Il y a les films à scandale. Et là, la palette est plus large.
Et du coup, quelle est la situation de Netflix en ce moment? Parce que ils ont eu un gros passage à vide. Je crois que c'était le premier trimestre 2019.
Et c'était le deuxième trimestre.
Et puis après, ça allait mieux. Ils ont engrangé beaucoup d'abonnements.
Netflix, en fait, est devenu un peu la cible de toutes les attentions de la profession. Donc forcément, comme dans tous ces métiers-là, il y a les pour et les anti. Donc il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont 20 milliards de dollars d'endettement. Donc forcément, c'est un vrai handicap. Et que d'un autre côté, ils ont 160 millions d'abonnés qui leur procurent un véritable avantage, même s'ils les ont payés cher, par rapport à leurs concurrents. Et ils sont vraiment déployés aujourd'hui dans 190 pays, à l'exception de la Corée du Nord et de la Chine.
Ils ont réussi leur déploiement international.
Le déploiement a été réussi. Et à l'époque, on disait ou on pensait qu'ils pourraient justement se prendre les pieds dans le tapis, ce qui ne s'est pas produit. Et ils ont aujourd'hui une stratégie de programmation qui est ce qu'elle est, qui est d'ailleurs analysée comme étant aussi parfois très audacieuse. Netflix n'a pas peur de mettre en ligne des contenus qui ne passeraient pas sur des chaînes de grande écoute, des contenus typiquement LGBT, qui sont des vrais sujets de société. Netflix est également très très fort sur des films, alors qu'on appelle des films documentaires. Je vous rappelle que, alors si on revient deux minutes sur la France, ils ont mis en ligne une série qui est d'ailleurs diversement commentée, mais il y a eu assez peu de critiques sur le fond de la série qui était sur l'affaire Grégory, qui était une relecture de l'affaire Grégory. Voilà, donc ils sont aussi capables de prendre des paris. Après, on est sur une très très grande plateforme qui effectivement parfois met des choses en ligne qui ressemblent un peu à du marshmallow ou à du popcorn. Certains ont dit que c'était Popflix ou voilà. Mais ça, malheureusement, il faut alimenter parce qu'un des points importants aussi pour la survie et la visibilité de ces plateformes, c'est la fréquence de mise en ligne des nouveautés, parce que vous payez un abonnement. Et là où sur la télé linéaire, on a trouvé un modèle qui est presque ancestral, hein, qui date du siècle dernier sur la programmation, sur les plateformes de SVOD, c'est quand même vous qui décidez d'y aller à un moment donné. Et quand vous vous connectez, si vous n'avez pas l'impression, la densité de nouveautés qui vont vous satisfaire d'un point de vue financier, c'est-à-dire j'en ai pour mon argent, que je ne regarde pas, vous allez être très très vite déçu. Et ça, aujourd'hui, Netflix a réussi ce pari-là. Maintenant, la concurrence arrive, on verra ce qui se passe.
Ouais, donc ça veut dire que leur endettement n'est pas prêt de diminuer. Est-ce que vous pensez qu'à terme, Netflix pourrait se faire croquer par Apple ou
Oui, évidemment. Netflix, aujourd'hui, alors, si on parle de valorisation boursière, Netflix vaut aujourd'hui à peu près 140 milliards de dollars et qu'il y a des sociétés dans le giron, ce qu'on appelle les GAFAN, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple... Et Netflix, Netflix a des concurrents ou des voisins de la Silicon Valley qui ont et le cash et la possibilité de les intégrer à un moment ou à un autre. Maintenant, ça c'est de la pure spéculation parce que pour l'instant,
c'est vrai que c'est que on l'a souvent dit. Apple a en trésorerie de quoi racheter tout Hollywood et pas seulement Netflix en trésorerie, en cash. Alors avec un effet de levier, ça peut aller encore plus loin. Mais je pense qu'en fait la tendance est plutôt au démantèlement des GAFA, à les luttes contre la concentration trop forte. Je pense
donc
que
les GAFA, c'est
Google,
Facebook,
Amazon. Facebook, Apple, enfin, qui est un terme un peu stupide parce qu'on mélange des choses qui ont des économies tout à fait différentes. Mais enfin bref, les grandes firmes technologiques américaines qui valent très très cher commencent à être attaquées en Europe, en Corée et aux États-Unis pour leur poids trop élevé. Donc, je pense que si Apple ou n'importe lequel des autres voulait racheter Netflix, les autorités de la concurrence, même extrêmement cool, comme aux États-Unis, ils mettraient le holà. C'est pas possible. On est à des niveaux. On peut se demander comment on a autorisé le rachat de Warner par AT&T. AT&T, c'est quand même le premier câbleau.
American Telecoms.
Voilà, c'était bon. C'est eux qui ont inventé le téléphone. Hein. Ils ont été pendant très longtemps un monopole quasiment mondial. Mais c'est plus le cas parce qu'ils ont été éclatés justement dans les années 80 et ils ont racheté Warner. Et ça crée une société gigantesque, en fait. Hein. Pendant les années 80-90, on n'aurait jamais laissé passer une telle concentration. Donc, c'est quand même très très peu probable que malgré son endettement, Netflix soit racheté par une société plus grosse qu'elle. Alors maintenant, est-ce que des sociétés plus petites qu'elle... Ça peut arriver, mais ça sera pas, à mon avis, par un des GAFA.
Des géants. Et en plus, Netflix a derrière lui des fonds de pension quand même assez puissants qui le suivent, y compris dans ses stratégies, parfois un peu...
Alors, donc, on sait pas des fonds, enfin, c'est des fonds de fonds. Ce sont des gestionnaires de fonds comme BlackRock ou Vanguard. Il faut savoir que tous les acteurs du numérique aux États-Unis et tous les acteurs de l'audiovisuel ont ces fonds en général à hauteur, il y a les quatre grands fonds en général entre 20-25% du capital, tous. Donc en réalité, si dans un manuel d'économie, on pourrait dire que toutes ces sociétés sont des filiales du même groupe. Netflix, Apple, Amazon, Warner, AT&T, Disney sont des filiales de quatre grands groupes. BlackRock est un fonds qui gère 6 800 milliards de dollars.
Est-ce qu'on pourrait assister à une sorte de guerre des programmes entre toutes ces entités? Parce que le fond de la guerre, ça va être sur ce que Netflix appelle les Netflix Originals, mais ça va se produire pour tout le monde, pour toutes les nouvelles plateformes.
Bah, je trouve que c'est un peu pour appâter le public, parce que aujourd'hui d'arriver sur le...
Ce qu'on appelle un produit d'appel.
Un produit d'appel, oui, parce que d'arriver avec le catalogue Disney en disant qu'on va mettre tous les coccinelles en ligne, les coccinelles, ça nous fait rigoler, nous, parce que... On les a vus au cinéma quand on est en culotte courte, mais les gamins qui ont 7-8 ans aujourd'hui, dans le monde entier, ils savent pas l'histoire des coccinelles, ils la connaissent pas. Donc il faut des produits d'appel, et puis il y a aussi cette nécessité, je pense, de toujours essayer, quand même, quelque part, on n'en a pas encore parlé, mais de se calquer quand même sur ce qui a fait le succès de la télévision. Et je vais pas citer Amazon, qui est en train de dépenser des milliards de dollars sur le sport en live. Je rappelle que ils ont racheté des journées du Boxing Day en Angleterre, de la Premier League, qui est la compétition de football la plus onéreuse en termes de droits du monde.
Vous avez un bout de Wimbledon.
Ils ont du Wimbledon. Je rappelle qu'ils ont le Master ATP qui a lieu à Londres. Ils l'ont en exclusivité. Et à partir de 2021, pour nos auditeurs francophones et passionnés de tennis, Amazon diffusera les nouveaux matchs couverts à partir de 20h30 de Roland-Garros sur son site. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on essaye de créer de la nouveauté, mais aussi en imitant ce qui existe et ce qui a très bien su faire la télévision jusqu'à aujourd'hui.
Alors je vous propose d'écouter, j'allais dire, la plus belle tête de gondole, non, mais en tout cas, la dernière conquête de Netflix, c'est Martin Scorsese, en novembre dernier, interviewé par Yann Barthès.
Je ne connaissais pas la nature de la situation en France, mais ce film était le bon. Et il nous a pris environ 9 ans, et pendant ces 9 années, on n'arrivait pas à trouver le financement, personne n'était intéressé.
Mais Hollywood est encore prêt à faire des films de 3h30 ?
J'imagine, oui. Mais en tout cas, ils ne voulaient pas faire celui-là. Ils ne voulaient pas le financer. En particulier, quand on s'est retrouvé à devoir faire des effets spéciaux qui coûtaient très cher, le coût les a vraiment dissuadés. Mais on voulait vraiment faire ce film. Peut-être, je ne sais pas, peut-être pour conclure une partie de notre vie ensemble. Et tout à coup, le groupe Netflix arrive et nous dit qu'ils sont prêts à nous financer.
Complete financing.
À 100%.
And creative freedom.
Et surtout en nous donnant carte blanche.
So this film had to be made.
Donc
this
le
way.
Film devait être fait comme ça.
Martin Scorsese en novembre dernier, donc interviewé sur TMC par Yann Barthès. Alors c'est vrai que ça fait envie. Parce que il n'a pas dit, hein, Martin Scorsese, le budget de son film, The Irishman, c'est 140 millions de dollars. C'est un record. Donc, effectivement, on a l'impression, on parlait tout à l'heure des studios traditionnels qui jadis produisaient entre 100 et 115 films par an. Là, ils produisent beaucoup moins que par le passé.
Alors, oui.
Maintenant, la force de production, elle est chez les plateformes.
Alors, en quantité, ça, c'est sûr. Hein, depuis 2 ans, les plateformes produisent plus de films que les studios n'en distribuent. Attention, les studios sont des distributeurs. Hein. C'est pas eux qui font. Ils font pas tous leurs films en interne. Donc alors que les plateformes, elles financent ces films, elles se trouvent être plus des producteurs que les studios traditionnels. Mais je parlais tout à l'heure de la révolution de 2009. On voit les ondes de choc de cette révolution, c'est qu'en particulier, comme les studios font moins de films et font des films moins risqués, une bonne partie des talents, donc les réalisateurs, mais surtout les scénaristes, sont partis d'un côté vers la série et d'autre côté vers les plateformes parce que simplement ils n'avaient plus de boulot. Quand on divise par deux le nombre de nouveaux films, Disney a racheté Fox l'an dernier et a scratché à peu près tous les films de Fox.
Donc, scratché
même s'il y avait déjà des dépenses qui étaient en cours. Hein. Donc ce qui veut dire que les gens qui étaient en train de travailler sur ces films Fox, ils cherchent du boulot.
Il faut bien qu'ils se tournent vers quelqu'un.
Voilà, donc ça c'est des vases communicants à plein de niveaux. Donc des réalisateurs, c'est ce dont on parle le plus, que c'est visible, mais aussi des scénaristes, parfois connus, mais aussi des agents, des techniciens, des sous-traitants qui font des décors, qui font des effets spéciaux, etc., se tournent vers les plateformes, pas parce que les plateformes sont impérialistes, parce que les studios produisent moins.
On l'a aussi abordé, Netflix produit des programmes différents suivant les régions du monde. Vous le disiez tout à l'heure, Pascal, par exemple, la série documentaire en France sur l'affaire Grégory. Ça aussi, ça peut... Parce que là, on parle beaucoup du cinéma américain, mais ça peut être aussi un appel d'air pour les talents du monde entier. S'il y a des programmes spécifiques, puisqu'il faudra bien mettre des produits dans ces tuyaux.
Oui et non. Oui et non. Bien sûr, ce sont des commandes avec d'heureux bénéficiaires, donc les gens qui ont fait Versailles, qui ont fait le documentaire, etc. Il faut savoir que c'est aussi des vases communicants dans l'autre sens. Là, quand un euro part de Canal+ et va sur Netflix, ben il y a 30 centimes de production en moins. Pour un euro dépensé sur une plateforme, dépense infiniment moins en programmes européens, locaux, que les chaînes qu'elles détruisent.
Donc ça, c'est tout l'enjeu de...
Ben voilà, c'est le bilan global, il sera, disons que les producteurs changent de clients, ils ont des nouveaux clients, mais c'est pas en plus, c'est à la place.
Alors c'est à la place, Alain, c'est vrai, mais il y a aussi un point qui est assez franco-français, mais qui est important à souligner pour en avoir discuté avec quelques producteurs qui commencent aujourd'hui à avoir un flux avec les plateformes. Alors, il n'y a pas que Netflix aujourd'hui. Quand on est basé à Paris, qu'on est producteur français, on s'adresse à Netflix et pour l'instant à Amazon, qui sont les deux principaux donneurs d'ordre. Et une des opportunités que ça leur donne, c'est aussi de distribuer internationalement leurs programmes, parce qu'il faut bien reconnaître que le MIP, qui est le marché international des programmes, qui a lieu deux fois par an à Cannes, a toujours été quand même un peu limité pour les acteurs francophones, alors du fait de la langue, hein, c'est pas du fait de l'intrigue ou de la narration ou de la qualité de la réalisation, mais simplement parce que aujourd'hui on exporte beaucoup plus facilement dans X pays du monde des programmes originaux qui sont tournés en anglais. D'ailleurs, Versailles a été tourné nativement en anglais. Et donc, ça leur donne une opportunité de se distribuer grâce aux plateformes de manière beaucoup plus simple, puisqu'en fait, ils n'ont qu'un guichet. Ils signent leur contrat de production avec Netflix ou Amazon. Et en contrepartie d'une certaine somme d'argent, ils ont comme la possibilité de partir à l'international, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire avant. Ça ne veut pas dire que ça va leur apporter plus d'argent, mais au moins ça leur donne une ouverture et peut-être même l'opportunité de travailler avec des chaînes qui verront leur travail et de leur commander par la suite des programmes plus traditionnels.
Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de mondialisation générale, que la télé, je disais la télé de papa, hein, mais que la télé nationale, etc., a bien disparu. Mais du coup, vous, comment vous voyez, Pascal Le Chevalier, Alain Le Diberdard, l'avenir de la salle de cinéma ? Est-ce que ça va devenir... parce que je crois que c'est Netflix ou Amazon qui a racheté une salle très prestigieuse à Los Angeles.
Qui s'appelle Le Paris.
Ouais. Qui s'appelle Le Paris. Hein, c'est tout un signe. Donc du coup, est-ce que la salle va devenir une sorte d'écrin un peu prestigieux? Et puis pour le reste du temps, ben, on ne verra plus que des franchises. Pascal?
Moi, en tant que spectateur, je pense que là aussi, c'est réducteur d'opposer la salle à Netflix. C'est deux temps... Deux actions qui sont pour moi complètement différentes. Vous allez dans une salle de cinéma. Alors, si vous allez dans des salles
françaises, qui sont presque aussi une exception en Europe du fait de leur qualité, du fait du,
la diversité.
De la diversité, de l'équipement qui a en 10 ans été largement financé par le CNC. Aujourd'hui, vous avez des projecteurs laser avec des sièges d'un confort incroyable.
Alors, donc la salle va devoir se réinventer.
Mais la salle s'est déjà réinventée.
Et en même temps, quand on voit par exemple les actions des chaînes aux États-Unis, AMC entre autres, bah, ça ne va pas très fort.
Enfin, il y a une loi qui interdisait aux studios de posséder des salles depuis 1948, et cette loi a été supprimée en novembre. Et donc, pendant un court instant, les gens se sont dit « Ah bah super, parce que les salles vont être achetées par Warner Universal ». Et qui ont tous dit « Ah bah non, nous on veut pas ». Et donc, du coup, l'action de AMC et de ces grands réseaux, qui étaient montés pendant un jour, a baissé, et on a dit qu'elles étaient à la ramasse. Mais en fait, faut quand même rappeler que la salle de cinéma, dans le monde entier, c'est un secteur très rentable. C'est le segment le plus rentable de l'audiovisuel. Les réseaux américains
ont... Mais ça, c'est grâce aux ventes de confiseries, non ?
C'est grâce aux ventes de confiseries. Mais, bon, mais cela dit, les réseaux américains ont une marge opérationnelle de 15% et les salles françaises de 35%. C'est un secteur... Alors d'abord, il existe depuis 120 ans. Il a connu deux guerres mondiales, la télé, le numérique, la vidéo, etc., etc. Et pourquoi ça tient ? Ça tient parce que le cinéma, c'est une sortie. Quand les gens vont au cinéma, d'abord, ils y vont très très majoritairement à plusieurs. Donc, on y va à plusieurs. Et le film, bien sûr, c'est important, mais c'est que 50% de la raison pour laquelle on est sorti. La décroissance des entrées chez les jeunes, en Grande-Bretagne, par exemple, et aux États-Unis, elle est liée à un motif principal qui est « je ne trouve pas de copains pour y aller ». Et c'est pas « le film me plaît pas », c'est « je ne trouve pas de copains ». Et en fait, là, ce qui dit bien ce que c'est que la sortie au cinéma, c'est pas une consommation comme quand on regarde un film sur Netflix, on a choisi, on appuie sur la télécommande, c'est « j'y vais avec des potes, j'y vais avec des parents, des voisins, etc. » Et ensuite, je vois un film.
J'y vais en famille, d'où peut-être le succès des franchises.
Oui, puis ça fluctuera, mais c'est vraiment... Alors, notamment en France, parce que comme le disait Pascal, le parc, il est unique au monde. Une densité, vous allez dans des petites villes en France, vous avez des cinémas. Si vous allez en Allemagne, même dans les grandes villes, il n'y a pas beaucoup de cinémas et ils sont pourris.
Et à Londres, c'est un peu pareil. Mais vous, dans une étude récente, Alain Le Diberdaire, vous notiez le vieillissement. Très important, très, très significatif des spectateurs.
Oui, enfin, c'est pas moi qui le notais, c'est une inquiétude dans les pays anglo-saxons qui est ancienne et qui est très vive. Hein.
Ça, c'est pas très bon signe.
Ça dépend. Oui, effectivement, il y a une substitution. Ce que je disais, c'est qu'en 10 ans, en France, il y a 20 millions d'entrées de jeunes qui ont été remplacées par 20 millions d'entrées de seniors. Mais ils ont été remplacés. Ce qui aurait été dangereux, c'est qu'ils ne soient pas remplacés. À la télé, en ce moment, c'est pas remplacé. C'est les jeunes qui partent sont pas remplacés par des vieux qui regardent plus. Dans les cinémas, oui. Donc, je dirais que il faut regarder ça avec un point de vue de Sirius. C'est-à-dire que c'est une activité qui a 120 ans, qui a résisté à peu près à tout, et qui va probablement durer avec des fluctuations.
Le cinéma n'est pas mort. Enfin, le cinéma.
La salle de cinéma n'est pas morte.
La salle de cinéma et même les films.
Non, pas mort. Le petit bémol que je mettrais à ça, et d'ailleurs, ça explique en partie aussi, sans doute, en tous les cas en France, la petite érosion sur le public jeune, c'est que vous allez dans les derniers multiplexes construits et récemment équipés avec les projecteurs de la meilleure qualité qui existe, les places sont à plus de 20 euros. Donc si vous sortez à 4, ça vous fait 100 euros rien que pour vous asseoir dans la salle, quelle que soit l'intensité et l'intérêt du spectacle, plus le parking, plus éventuellement les pop-corn et la confiserie.
Plus les babysitters.
Et ça va très très vite. Et ça, c'est un facteur auquel il faut faire très attention. Puis un autre facteur aussi qui explique ce qui s'est passé internationalement et en particulier aux États-Unis sur Netflix, c'est pour qui a vécu aux États-Unis, faut souvent faire 25 à 30 miles, c'est-à-dire une demi-heure à trois quarts d'heure de voiture pour trouver le premier cinéma, parce qu'on n'habite jamais le centre-ville dans les villes américaines. Et donc, ça a aussi largement favorisé tout ce qui était on-demand, à la demande, à la maison, forcément.
Mais du coup, à votre avis, faisons un peu de prospective, comment vous voyez le cinéma et la pratique du cinéma dans 10 ans ? C'est-à-dire que le cinéma, on se souvient des cinémas de quartier hein, dans les années 50, 60, donc il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, on peut imaginer, par rapport à ce que vous disiez, hein, de la cherté, que les gens ne seront prêts à payer que pour aller voir quelque chose qui est vraiment extraordinaire.
En France, on a une grosse programmation, donc ça c'est quelque chose qui est propre
Une exception,
une exception. Après, je crois que c'était The Hollywood Reporter qui titrait il y a pas très longtemps « S'adapter ou mourir ». En fait, c'est un peu ce qui est applicable à tous les médias, donc à toutes les formes d'expression médiatique, que ce soit la salle ou bien la télévision. Donc on voit bien que la salle, elle a déjà entrepris depuis très longtemps une vraie modernisation, parce qu'on a envie d'avoir des images de plus grande qualité, d'assister à un véritable spectacle avec un son. Si vous allez dans des concerts live, aujourd'hui, quand vous êtes dans une salle de cinéma, il y a comme une impression sonore que vous ne pourrez jamais restituer chez vous, sauf si vous êtes Bill Gates ou Mark Zuckerberg, avec une salle de cinéma que vous avez pu payer quelques millions de dollars. Et donc, ces expériences-là, aujourd'hui, elles contribuent aussi à donner de l'attractivité. Pour la télévision, c'est un peu différent, parce que la télévision, c'est comme un média globalement de gratuité. Et aujourd'hui, on a de multiples occasions de faire autre chose et autrement. Donc là, ça sera plus difficile.
Et puis, le cinéma, ce sont des gens extrêmement malins. Il ne faut pas oublier ça, ce sont des filous. Ça a toujours été comme ça.
Vous voulez dire les producteurs ?
Les exploitants, les producteurs, c'est une activité qui est, c'est pas de l'industrie lourde, le cinéma. On peut faire un film avec, on peut faire 150 millions de dollars pour Scorsese, on peut faire des films à 2 millions de dollars comme Atlantique.
De Mathilde Diop, dont on a effectivement beaucoup parlé, et qui est distribué sur Netflix.
Et on n'est pas obligé d'avoir des équipes avec 25 stagiaires, on n'est pas obligé de faire des effets spéciaux numériques, on n'en a pas besoin. Ils vont s'adapter. S'il y a un secteur qui craint pas, c'est le cinéma. Sauf, alors moi, sur un point, ce qui est très dommage, c'est l'écroulement du DVD. Parce que la cinéphilie, elle était moribonde dans les années 60 à cause de la fermeture des salles de quartier. Et la télévision passait très peu de films du patrimoine. Et puis, grâce à la vidéo, la cinéphilie a ressuscité. Et il y a eu une cinéphilie un peu polyvalente, d'ailleurs, y compris sur des films des années 80, des nanars et compagnie, mais ça aussi pour les Hitchcock et compagnie. Et le DVD est une œuvre culturelle. Les bonus de DVD, les livres qui sont mis avec, étaient un je parle au passé, maintenant le marché.
Ça y est, c'est écroulé.
Pratiquement, oui. Et ça, c'est culturellement dommage. C'est pas la culture cinématographique, elle reposait sur trois piliers qui étaient la salle, la télé, enfin l'écran de télévision, et le DVD. Et silencieusement, ce troisième pilier disparaît, et avec lui disparaît la partie la plus culturelle de la consommation de cinéma, beaucoup plus culturelle que la salle.
Alors il y a une plateforme, en France en tout cas, c'est la Cinéthèque, une plateforme de films du patrimoine ou même de films récents, conseillés par des réalisateurs. Mais c'est peut-être une exception française.
Ce que souligne Alain, et pour avoir travaillé pendant des années dans l'édition DVD, c'est comme dans l'édition littéraire, c'est la possession. C'est-à-dire qu'on matérialise l'œuvre.
Et l'édition.
Et l'édition en tant que telle. L'édition collector, avec son livret, avec ses bonus parfois à l'intérieur qui, dans certains cas, sont vraiment très enrichissants du point de vue culturel, mais aussi cinématographique, et qui sont tous les grands réalisateurs, d'ailleurs, vous diront qu'ils se sont tous inspirés à un moment donné des techniques de tournage d'un Spielberg ou d'un Scorsese quand ils s'adressent à ces acteurs, parce que vous êtes backstage, vous êtes derrière l'écran, et vous voyez comment le film se construit. Avec le DVD, ça, c'était possible. Aujourd'hui, avec les plateformes, pour le coup, on passe dans un monde qui se virtualise complètement, mais surtout qui disparaît. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus cet acte de possession. Vous regardez un film, vous le louez 4,99€ sur une plateforme, vous avez les droits pendant 48 heures, il disparaît. Ou vous êtes sur votre plateforme de SVOD, les droits se finissent parce qu'il y a toujours une fin aux exploitations de droits, le film est retiré de la plateforme. Et vous l'aurez
vous
plus
n'avez
jamais.
Plus rien. Alors que justement, effectivement, la cinéphilie, il y a aussi une notion de partage. C'est-à-dire, tiens, regarde ce film sud-coréen, incroyable, des années 50. Tiens, je te file le DVD. Effectivement, Pascal, on ne peut plus le faire avec une plateforme. Il y a aussi une notion qui a disparu. Alors là, pour le coup, de la salle, c'est le cinéaste qui vient. Et puis le traditionnel échange entre les spectateurs.
Ah, ils le font de plus en plus quand même.
Il y a des salles en France qui sont très, très fortes.
Il y a les avant-premières quand même.
Ils font des tournées. Et puis, mais par contre, je reprends l'exemple du DVD, sur un domaine qui est le western. Le western, moi quand j'étais à Arte, j'en ai passé beaucoup, ça marche très très bien. Il y a un public pour le western qui est pas un public du tout, qui est un public cultivé en fait. Et si vous prenez la collection Sidonie, on lui fait la pub, c'est, je sais pas, il y a 150 westerns présentés par Tavernier ou par Brion ou parfois par d'autres réalisateurs. Et c'est pas pareil de regarder un western sans rien autour. que d'avoir 5 ou 10 minutes, pas plus, où on vous explique qu'Anthony Mann, il a fait ceci, que le convoi des femmes, c'était un scandale, etc., etc.
D'avoir des passeurs, quoi.
Des passeurs. Et le DVD était une merveille, parce que la cassette vidéo, on pouvait pas, parce que c'était à la fin, on regardait pas le DVD, il y avait cette, et malheureusement, c'est un petit peu fini.
Alors qu'est-ce qui va se passer, on n'en a pas parlé, hein, des festivals, mais qu'est-ce qui va se passer pour, par exemple, le Festival de Cannes, qui donc n'accepte pas les films des plateformes dans sa compétition? Ça va devenir une position de plus en plus difficile à tenir, non?
Pascal Le Chevalier. Le délégué général du Festival de Cannes, pour ne pas le nommer, Thierry Frémaux, a invité Martin Scorsese à Lyon au Festival Lumière, et il a projeté The Irishman. Donc, vous voyez bien que le même cerveau.
Il a dit qu'il a toujours dit qu'il est resté. Voilà. Les discussions étaient toujours ouvertes.
Disons, il a un conseil d'administration. Hein.
Oui, mais franchement, je pense que ça, c'est pour le coup franco-français. Venise, Berlin, sont passés de côté. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est toute la partie de la profession.
Mais donc
qui
c'est
dit...
pas tenable. Pardon, je vous interromps.
Non, je pense qu'à terme c'est pas tenable. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que il y a toute une partie de la profession qui dit à partir du moment où un film n'a pas un numéro de visa, qui est le qualificatif qui vous permet d'entrer en salle et qui est donné par le CNC, ce n'est pas une œuvre cinématographique. Alors là, franchement, voilà, moi, je reste bouche bée parce qu'il faut aller expliquer ça au grand réalisateur. Encore une fois, Scorsese l'a expliqué, il a besoin de financer, il a une œuvre à faire financer, il faut trouver des gens bankable qui le fassent pour lui. Et il l'a fait avec Netflix et je pense que l'œuvre, ça l'a pas dénaturé. Maintenant, c'est vrai que son mode de diffusion est particulier. Voilà, c'est tout.
Oui, mais par contre, par exemple, Roma d'Alfonso Cuarón, hein, qui a été auréolé en compétition, qui a eu le Lion d'Or à Venise, etc., l'Oscar, est-ce qu'il a été si bien vu sur Netflix ?
Alors dans le cas de Roma, oui. Ils n'ont pas communiqué pays par pays les chiffres, mais un film mexicain noir et blanc sous-titré en France en salle, il n'aurait fait que dalle. Hein. Faut quand même être clair. On se félicite de Parasite. On est tous contents que
du grand succès de Parasite.
Du grand succès en salle, c'est 1,6 million. C'est l'événement de l'année, de cette manière, en fréquentation, c'est 1,6 million
en France. Hein.
En France. Hein. Et le rôle des festivals, il est un rôle de communication. C'est que le Festival de Cannes est une bande-annonce pour le cinéma, mais son prix n'a pas beaucoup d'importance. Le risque que Cannes court, c'est de se marginaliser, de devenir un petit à petit un truc provincial.
En snobant les plateformes, c'est
voilà,
ça
en snobant les plateformes, parce que ils peuvent pas faire comme si elles n'existaient pas. Elles sont là, elles sont là pour longtemps. Et elles produisent. Et elles produisent pas que des merdes. Donc, en fait, le fait de dire on prend plus... C'est comme s'ils avaient dit on prend pas les films en stéréo. Parce que, non, le stéréo n'aime pas.
Ou en couleur. Ou enfin, en l'occurrence, il y a quand même des bons arguments pour dire que le jour où les plateformes aideront au financement, comme le font les chaînes de télé, où il y aura des obligations.
Cannes n'a rien à voir dans cette discussion.
C'est mais ça, si, c'est... parce qu'il y a des exploitants, les exploitants sont très puissants.
Mais le Festival de Cannes est un festival mondial qui expose le cinéma mondial et les problèmes, alors là pour le coup franco-français de financement de la filière cinématographique dans le cadre d'une loi, d'ailleurs on attend la nouvelle loi du visuel pour cette année et de la transposition de la directive européenne, très sincèrement d'ailleurs, je crois que quand vous entendez Scorsese dire le mode de distribution des films en France, je savais même pas comment ça se passait. Vous croyez pas que ces gens-là vont scruter la loi, donc on agrège tous les problèmes et qu'aujourd'hui le Festival de Cannes doit faire rayonner le cinéma partout dans le monde entier et que c'est une très bonne œuvre qui était financée par Amazon et qu'elle mérite d'être en compétition, je vois pas pourquoi elle le serait pas.
Et je pense que ça tient grâce au talent de Frémaux et de sa façon de choisir les films et puis de faire de la mousse autour. Mais sinon, le Festival de Cannes, sans le talent de l'équipe qui a réussi à faire de la communication, c'est de la pub. Le Festival de Cannes, la matière première du Festival de Cannes, c'est les attachés de presse. Et du coup, s'ils perdent de l'impact parce qu'ils parlent pas de certains films, etc., on aura beau expliquer, faire tout un tas de machins sur la réglementation, etc., ça va devenir un truc provincial. Ils vont changer. Ça tiendra pas.
Et donc ça veut dire que demain, une grande partie des professionnels français du cinéma seront des salariés de Netflix ?
Il faut leur souhaiter. C'est quand même mieux qu'être au chômage. Mais non, pas du tout. Encore une fois, le Netflix, dans ses rêves les plus fous, peut avoir 10 millions d'abonnés en France à un moment donné. Il ne faut pas oublier qu'un abonné, c'est pas un stock, c'est un flux. Les gens rentrent, sortent, etc. Donc, aux États-Unis, pratiquement tout le monde a été abonné à un moment ou à un autre à Netflix. Mais il y a des gens qui le sont plus parce qu'ils sont restés à autre chose encore. Netflix va prendre une position, va probablement respecter la directive à sa manière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une directive sur les programmes européens, pas français, européens. Donc un film espagnol compte dans les 30%. Et il y aura des retombées positives pour un certain nombre de films. Et ce que disait Pascal est très juste, c'est que là, peut-être moins de production en France, mais plus d'exposition dans le monde. Et ça, c'est vrai que avoir un outil permettant de montrer régulièrement les œuvres françaises dans le monde entier, on n'en avait pas. Et donc ça, c'est purement positif. Mais pour l'emploi, je pense pas que ça sera une... Ça serait très bien que tous les professionnels en France de cinéma retrouvent du boulot grâce à Netflix.
Merci beaucoup Alain Le Diberdard. Je rappelle le titre de votre livre, donc paru aux éditions La Découverte, dans la collection Repères Culture. Ça s'appelle La Nouvelle Économie de l'Audiovisuel. Merci Pascal Le Chevalier. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin
et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation Fanny Renard.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.
Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama sur ta poitrine grand format. Voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, tes biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Le lit arrive en avalanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Tous les cinémas du monde.
Tous les cinémas du monde.
En 2000.